demande de revenir un instant sur ce que nous avions vu la dernière fois, c'est-à-dire au chapitre 3, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Ce très beau passage du dialogue de Jésus avec la Samaritaine, à voir en parallèle avec Nicodème. N'oubliez jamais. Il faut essayer petit à petit de se faire une théologie de la pédagogie divine, de la pédagogie du Christ, et de voir comment Jésus parle à un théologien et comment Jésus parle à une pécheresse. Ça ne veut pas dire que le théologien ne soit pas pécheur, mais ce n'est pas tout à fait de la même façon. Le péché du théologien, quand il s'agit de Nicodème, on le sent très bien, c'est une confusion qui le fait. Il se glorifie d'être de la race d'Abraham. Et il oublie que la grâce est un don gratuit. Donc, confusion au niveau du mystère de la nature et de la grâce. Quand il s'agit de la Samaritaine, il y avait dans sa jeunesse une espèce de doute au point de vue liturgique. L'adoration doit-elle se faire à Jérusalem ou dans les hauts lieux? Et sans doute que ce manque de détermination l'a empêché d'être suffisamment fort par rapport aux tentations qui sont venues ensuite. Je crois que ce qui nous fortifie, ce qui nous permet d'avoir une orientation très nette, c'est le mystère de l'adoration. Et tout ébranlement au sujet de l'adoration, donc toute espèce de doute au niveau de l'adoration, qui nous empêche de nous donner totalement, un doute qui vient du démon, qui fait regarder la diversité de liturgie et qui nous empêche par le fait même d'entrer pleinement et totalement. On peut se mettre à douter de telle ou telle liturgie. Vous voyez, aujourd'hui on pourrait voir ça à propos de l'Eucharistie, à propos de la messe. Toutes les discussions qui ont lieu là, c'est pour que de fait le mystère de l'Eucharistie ne soit plus pour nous la nourriture qu'il doit être. Alors, on ne voit plus la finalité et on se met à regarder au niveau du conditionnement, au niveau du comment de la liturgie. Et le comment de la liturgie devient quelque chose de tellement important qu'il empêche de regarder la finalité. Ça, j'en suis sûr. J'en suis absolument sûr que de fait, ces discussions, quand il s'agit du mystère de l'Eucharistie, où on préfère, voyez, une modalité liturgique à la finalité, fait que nécessairement, on ne profite plus du mystère comme on devrait en profiter. Et il y aura des répercussions dans quelques années. Je ne dis pas que tous deviendront comme la Samaritaine, n'est-ce pas ? Mais qu'il y aura des répercussions. Ça ne peut pas être autrement. Parce que nous avons besoin d'être établis sur le roc. Et on est établi sur le roc par l'adoration. C'est l'adoration qui met en nous cette netteté. C'est pour ça que c'est si riche ce dialogue de Jésus avec la Samaritaine. Il y a des tas de choses à découvrir là, progressivement. Parce que c'est important de voir que les tremblements apocalyptiques, c'est toujours à l'égard du fondement. Alors, c'est le fondement naturel de l'adoration, parce que toute notre vie chrétienne est fondée naturellement sur l'adoration. Quand il n'y a plus d'adoration, il n'y a plus de fondement. Et elle est fondée divinement sur la foi. Il y a deux fondements, il ne faut jamais l'oublier. Il y a le fondement naturel et le fondement surnaturel. Alors, les tremblements apocalyptiques sont au niveau de la parole de Dieu et au niveau de l'adoration. Au niveau de l'adoration, faire intervenir un tout petit peu de doute à la place de regarder que l'essentiel, c'est l'adoration, c'est secondaire. C'est important, évidemment, dans l'ordre de l'obéissance, d'adorer au temple ou d'adorer dans les hauts lieux. Pour un juif, c'est très important. Je comprends très bien, c'est évident. On dirait un juif, c'est secondaire. Non, c'est pas secondaire. Il y a une question d'obéissance. Et par l'obéissance, c'est pas secondaire. Mais on fait intervenir le doute sur la manière dont on adore. Les discussions liturgiques tombent là-dessus et on oublie l'essentiel. Dans, toujours dans toute discussion liturgique, c'est comme ça que ça arrive. Hein? On regarde la manière dont on chante et on oublie que le chant est une louange à Dieu. Alors, la manière dont on chante devient quelque chose de principal et de primordial. Pas ici, c'est évidemment, mais en dehors d'ici, c'est que les querelles liturgiques deviennent quelque chose qui font dévier, ça fait dévier la finalité. C'est la finalité qu'on doit regarder. La finalité ne supprime pas le comment, mais le comment peut supprimer la finalité. Jamais vous l'oubliez. La finalité ne supprime pas le comment, et si on est très pris par la finalité du chant liturgique, c'est-à-dire la finalité de la vie liturgique, qui est le point de vue de la louange, le point de vue de la demande, le point de vue de l'action de grâce, le point de vue de l'adoration, on voudra que le comment soit parfaitement réalisé, et le mieux possible réalisé. C'est secondaire, mais c'est essentiel, puisque nous sommes âme et corps. Nous sommes les êtres qui devons vivre d'abord de l'invisible, mais il faut que ça se traduise par le visible. Donc, c'est important de souligner ce que notre Seigneur veut nous montrer par rapport à la Samaritaine, que ce fait que cette Samaritaine, dans sa jeunesse, n'a pas pu vivre pleinement et totalement de ce mystère de l'adoration, les fondements de sa vie de croyante n'ont pas pu se développer parfaitement. Je crois qu'on peut le dire, étant donné que c'est Jésus lui-même qui, en un rien de temps, veut la remettre dans la vérité. Et la remettre dans la vérité, c'était revenir à l'adoration. Notre vérité pratique commence par l'adoration. Nous sommes vrais pratiquement dans l'ordre par l'adoration. Si, du côté de l'adoration, nous ne sommes plus ce que nous devons être, il n'y a plus de vérité, alors tout ce qu'on construit après, ça ne va plus. On pourrait dire que la pierre angulaire de l'édifice de notre vie spirituelle, c'est l'adoration. C'est du reste très beau pour voir comment Jésus est la pierre angulaire dans l'adoration. Il est à la croix pierre angulaire, parce qu'il représente l'adoration au sens le plus fort qui soit, au sens le plus plaigné. Les adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est ça que Jésus prophétise. Le dépassement de ces querelles, c'est la croix. Alors ce serait très important à bien saisir pour toutes les querelles liturgiques, hein. C'est que tous les dépassements doivent revenir au mystère de la croix. Parce que c'est le mystère de la croix qui nous donne le mystère de la croix glorieuse, le mystère de la croix lié à la gloire, qui nous donne la signification profonde de toute la liturgie, à la fois son intériorité, les adorateurs en esprit et en vérité, parce que le Père est esprit, et donc il faut des adorateurs en esprit et en vérité, et que tout renouveau liturgique se prend par l'adoration. Tout renouveau liturgique. Et le renouveau liturgique n'a de signification que dans la mesure, il va jusque-là, dans l'ordre de l'adoration. S'il ne touche pas le mystère de l'adoration en esprit et en vérité, c'est quelque chose qui tombera. C'est quelque chose qui ne va pas jusqu'au bout. Le renouveau doit se prendre de ce côté-là. Et là, il demande ensuite de s'exprimer. Parce qu'encore une fois, nous sommes des êtres religieux dans notre chair. Et Jésus, face aux apôtres, donne cette affirmation si précieuse, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Alors, on me pose cette question, pouvez-vous préciser davantage comment faire la volonté du Père et nourriture? Car nourriture est passif. Oui, pour celui qui est le vivant, il se sert de la nourriture. C'est très vrai. Il se sert de la nourriture. Et la nourriture est relative au vivant, selon une bonne philosophie du vivant. L'aliment est relatif au vivant. Et il est pour le vivant. Alors, comment jouer ici cette analogie? La volonté du Père est nourriture. C'est moi qui deviens relatif à la volonté du Père, et non pas la volonté du Père relative à moi. Hein, comprenez bien, c'est une très belle analogie. Hein. On la prend ordinairement du côté de l'Eucharistie, et du côté de l'Eucharistie, Jésus précise, je suis le pain vivant, pour bien nous faire comprendre que ce pain est source de vie, et qu'il est le vivant. Et donc, que c'est celui qui se nourrit de l'Eucharistie par la foi, qui est relatif à l'Eucharistie. Et c'est lui qui est transformé dans le Christ, et c'est pas lui qui transforme le Christ. Dans toute la théologie du chapitre 6 dans saint Jean, nous pouvons affirmer cela. Mais nous devons déjà ici le dire. Et ici, on affirme moins ce point de vue-là. On le voit beaucoup moins parce qu'on précise beaucoup moins comment la volonté du Père est nourriture. Bien, la volonté du Père est nourriture en ce sens que, dans la foi et l'espérance, je reçois la volonté du Père comme étant ce qui me permet de me dépasser. En acceptant la volonté du Père, en obéissant à la volonté du Père, puisque je ne peux recevoir la volonté du Père qu'en obéissant. En recevant la volonté du Père en obéissant, je suis transformé, je me transforme vitalement, divinement, dans cette volonté du Père. Je suis donc assumé par cette volonté, transformé par cette volonté. Je me connaturalise à cette volonté et je m'élève jusqu'à cette volonté. Et c'est en ce sens-là que je peux dire que la volonté du Père est pour moi nourriture, parce qu'elle me permet de dépasser toutes les luttes, de me refaire dans ma volonté profonde en m'unissant à la source de tout amour, qui est la volonté du Père. La volonté du Père est toujours pour moi source d'amour, comme les sources de lumière. Et donc, en acceptant cette volonté du Père, en acceptant dans la foi et l'espérance, et dans l'amour, en acceptant cette volonté du Père, je m'élève jusqu'à cette volonté du Père. Et c'est en ce sens-là que je peux dire que la volonté du Père est nourriture. Comme l'Eucharistie est nourriture. Vous voyez, mais c'est en inversant. L'analogie est inversée, c'est évident. L'analogie joue au niveau assimilation. Alors là, c'est la pointe dans laquelle l'analogie joue. Mais c'est inversé, parce que c'est la volonté du Père qui me transforme, et c'est pas moi qui transforme la volonté du Père en moi-même. Je ne transforme pas la volonté du Père en ma volonté propre. Je ne fais pas la volonté du Père ma volonté propre, comme l'aliment devient un avec celui qui s'en nourrit. Je suis transformé dans la volonté du Père, exactement comme dans l'Eucharistie. Mon cœur qui reçoit le corps du Christ est transformé dans le corps du Christ. Donc c'est la même analogie. L'analogie joue au niveau de l'assimilation. Mais c'est inversé, parce qu'en réalité, quand Dieu se fait nourriture, c'est Dieu qui me transforme en lui. Alors c'est là où on voit la miséricorde infinie de Dieu. Dieu qui se donne comme nourriture, pour être tout proche et m'attirer vers lui. Alors évidemment, on le voit beaucoup mieux, si vous voulez, du côté de l'Eucharistie. On est beaucoup plus habitué à regarder du côté de l'Eucharistie. Mais je crois très important, pour moi ça me semble une chose très importante, de regarder les trois nourritures. Je reprenais ça souvent dans les retraites à Châteauneuf, parce que ça me paraissait quelque chose de très important, de comprendre le mystère de l'Église dans la lumière des trois nourritures. C'est saint Jean et saint Luc. Un des aspects sous lequel les jeunes d'aujourd'hui ont le plus de peine à vivre pleinement leur vie chrétienne, c'est le mystère de l'Église. C'est bien évident. Combien de fois on a entendu ça et combien de fois vous l'entendrez? Ah, le Christ, ça va, mais l'Église, hein? S'il n'y avait que Christ, c'est bien évident, mais l'Église, regardez-la. Et c'est vrai, parce que nous trahissons tous l'Église. Nous trahissons tous l'Église. On a beau essayer de faire être des petites oasis dans l'Église, ces oasis portent toujours un peu de l'eau polluée. Et il y a toujours un peu de paludisme qui joue là-dedans. Il n'y a pas moyen autrement. C'est donc, on est toujours des sources un peu polluées. C'est pas quelque chose qui est absolument pur. Alors, je crois qu'il y aurait un très beau traité de l'Église pour les jeunes d'aujourd'hui à le faire par les trois nourritures. Faire l'Église comme un milieu divin qui nous donne les trois nourritures. Mais c'est toute une théologie de l'Église qui est à faire là. Elle n'est pas faite. Et je crois parce qu'on n'a pas été assez loin dans l'évangile de Saint Jean. On n'a pas vu jusqu'au bout. Alors on n'a pas beaucoup utilisé dans les traités de l'Église, au point de vue théologique, l'Apocalypse. Hein. Je n'ai jamais vu beaucoup l'Apocalypse utilisé dans les traités de l'Église. Alors que ça devrait être la grande lumière. L'Église doit être vue comme une Église militante. Et l'Église doit être vue comme une Église militante et comme une oasis qui nous donne les trois nourritures. La parole de Dieu, l'Eucharistie et la volonté du Père. Et ce sont ces trois nourritures qui nous font comprendre la nécessité de l'Église. Parce que les jeunes se posent toujours la question, saint Thomas pose la question, la nécessité de la foi. Et nous devons savoir répondre aux jeunes, pourquoi la foi? Pour la vision béatifique. Pourquoi l'Église? La nécessité de l'Église. Pourquoi l'Église? Il ne faut pas leur dire, il faut entrer dans l'Église, c'est nécessaire. Ça fait partie, le curé le demande, ça très bien. L'évêque le demande, le Saint-Père le demande. Aujourd'hui, ça ne porte plus. Hein. Un temps, ça pouvait porter, mais c'est plus du tout. Aujourd'hui, c'est plus suffisant. Alors, c'est là où on voit qu'il faut vraiment une pastorale contemplative pour donner le pourquoi, pour donner le sens de la finalité. Et le sens de la finalité de l'Église, c'est le milieu divin. C'est le milieu divin. C'est pas la terre qui est un milieu divin. C'est l'Église. L'Église est un milieu divin de croissance qui nous donne la nourriture. Qui nous donne les trois grandes nourritures. Et l'Église n'est pleinement l'Église que là où les trois nourritures sont données en surabondance. C'est-à-dire la parole de Dieu donnée en surabondance dans la prédication. Saint Dominique, la parole de Dieu. Je crois que Saint Dominique vivrait aujourd'hui et il dirait, voyez, la pénurie hein, de la parole de Dieu. Elle est donnée, oui, dans des petits cercles, avec des méthodes exégétiques. Mais elle n'est plus donnée comme une parole vivante, dans les homélies. Et elle n'est plus donnée comme une parole vivante, comme un enseignement actuel, que nous devons donner. L'Eucharistie, l'Église n'existe que là où l'Eucharistie est présent. Et le mystère de la volonté du Père. Le mystère de la volonté du Père nous fait comprendre l'autorité dans l'Église. Et pourquoi il y a une autorité dans l'Église qui nous transmet cette volonté du Père? Puisque seule l'autorité peut transmettre la volonté du Père. L'Église, dans l'Église, toute autorité est paternelle ou maternelle. Elle est toujours paternelle ou maternelle. Elle vient du Père, elle passe par le cœur de Jésus, donc elle est sacerdotale, et elle est maternelle par le cœur de Marie. Et c'est la volonté du Père qui se transmet à travers le cœur du Christ. Donc c'est une autorité sacerdotale, et à travers le cœur de Marie. Et elle est encore sacerdotale à travers le cœur de Marie, mais d'une autre manière, d'une manière complémentaire. Et c'est en se référant à ces autorités que nous pouvons avoir notre nourriture dans l'ordre de l'obéissance et que nous nous fortifions dans l'espérance. Donc rappelez-vous ça. Alors j'ajoute simplement, parce que je crois que c'est important, et que c'est par cette théologie des trois nourritures que nous pourrions, qu'on pourrait comprendre comment l'Église catholique seule maintient la plénitude de ces trois nourritures. L'Église orthodoxe a un tout petit peu diminué l'autorité paternelle. Et l'Église protestante, elle l'a mise à l'écart. Et elle a diminué la nourriture de l'Eucharistie. Et il ne reste plus que la parole. C'est très curieux, et ça nous aide beaucoup, vous savez, au point de vue dialogue d'ordre œcuménique, j'ai toujours vu que c'était la chose qui aidait le plus. Parce que personne ne peut nier que ces trois nourritures sont affirmées. C'est Jésus lui-même qui l'affirme. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Ma chair est vraiment une nourriture. Or, si le point de vue de la nourriture, c'est justement ce qu'il y a de premier pour un vivant, un vivant a besoin de nourriture pour croître. S'il ne mange plus au bout d'un certain temps, ça ne va plus du tout. Il a besoin de la nourriture pour croître. Et une nourriture qui lui soit parfaitement adaptée. Alors si on comprend le mystère de ces trois nourritures, on comprend comment ces trois nourritures nous sont données pour que nous puissions vivre pleinement le mystère de la foi, de l'espérance et de l'amour. Je n'insiste pas plus, mais ça c'est important d'y penser, et de refaire toute notre théologie d'Église par les trois nourritures, ou de la faire, et de comprendre que toutes les attaques du démon, c'est à l'égard, non pas des trois nourritures, mais du conditionnement dans lequel se trouvent ces trois nourritures. Parce que le démon n'attaque pas directement les nourritures divines, mais le conditionnement par lequel nous l'atteignons. Et c'est ceci qui nous aide alors à comprendre toutes les grandes luttes de l'Apocalypse, qui essaie de supprimer le milieu dans lequel, de fait, ces nourritures sont données. Alors, je continue, si vous voulez, à regarder le second moment de Jésus époux. Chapitre 4, je reprends. « Après ces deux jours, il partit de là pour la Galilée, car Jésus lui-même avait attesté qu'un prophète ne jouit d'aucune estime dans sa propre patrie. Lors donc qu'il vint en Galilée, les Galiléens lui firent bon accueil pour avoir vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient venus à la fête. » Petite transition très curieuse de Saint Jean. Intéressante, parce que c'est le passage de la Judée à la... Donc de la Samarie, si vous voulez, à la Galilée, le retour à la Galilée. Alors il faut se faire une idée progressive des différents milieux dans lesquels Jésus réalise sa vie apostolique. Ceci aussi c'est intéressant, parce que ça nous aide à mieux comprendre toute la souplesse que nous devons avoir dans notre vie apostolique. Jésus n'agit pas de la même manière à Jérusalem et en Galilée et en Samarie. Jésus n'agit pas de la même manière. La finalité est toujours la même, mais le conditionnement n'est pas le même. Et c'est pour ça que Saint Jean souligne ça, il le souligne admirablement, parce qu'il l'a vécu. Il l'a vécu, et à la fin de sa vie, il comprend très bien cette diversité dans la vie apostolique de Jésus. Là, il y a un pluralisme. Ne confondons pas le pluralisme de l'adaptation et le pluralisme de la doctrine. Il y a un pluralisme dans l'adaptation, c'est bien évident. C'est là où joue parfaitement l'adaptation dans notre sensibilité vis-à-vis des gens. Il vint donc de nouveau à Cana de Galilée. Alors, cette reprise à Cana, c'est très curieux. Il y a des lieux comme ça que Jésus aime bien, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait un officier royal dont le fils était malade à Capernaum. Donc cet officier royal, je vous disais, il fallait bien comprendre que cet officier royal n'avait rien à faire du tout avec le peuple d'Israël. C'est un officier royal qui n'est pas un croyant, c'est un païen. Mais cet officier royal qui était habitué de jouer un rôle de celui qui commande, un officier royal, est habitué de commander. Dans l'Écriture, on voit assez souvent la vie militaire et Jésus. Ce serait peut-être intéressant à relever aujourd'hui, ça. La vie militaire et Jésus, c'est assez curieux. Alors vous voyez ici, il y a des représentants comme ça. Il y avait un officier royal dont le fils était malade. Alors, cet officier, parce que le fils est malade, il redevient père. Un officier peut, quand il est pleinement officier, oublier qu'il est père, ou confondre l'autorité paternelle et l'autorité militaire. C'est pas la même chose, hein. Alors il faut bien saisir ces choses-là. Je crois que c'est très important, c'est sous-jacent, vous savez, dans tout cela. Il y a une richesse dans ce que nous dit Saint Jean ici. Il y avait un officier royal dont le fils était malade, à Capharnaüm. Parce que son fils est malade, il redevient père. Et on le voit très bien. Ayant entendu dire que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en alla vers lui. Ça, ce n'est pas la démarche de l'officier royal, c'est la démarche du père. Il n'hésite pas. Comme royal, il était habitué à commander. Il aurait envoyé un de ses soldats, va dire au prophète que je l'attends. Il aurait donné un commandement. Il est atteint dans son cœur par la maladie de son fils. Son fils agonise. Et parce que son fils agonise, il redevient père. Et l'officier diminue et le père dans son cœur. Et le père devient de plus en plus le père. Ayant entendu dire que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en alla vers lui et le priait de descendre et de guérir son fils. Alors ça c'est très important, d'y avoir l'imperium de l'officier et l'imperium du père. On va bien regarder la petite confusion qui est l'imperium de l'officier. On sait très bien ce que c'est qu'un officier, il sait commander. Autrement, il ne serait pas un officier. Un père, il sait prier, il sait demander. En tant que père, si son fils est malade. Alors, il faudrait voir dans le cœur de cet officier royal, pendant qu'il va vers Jésus, comment de plus en plus, sa qualité de père augmente. Et comment de plus en plus, il va savoir demander. Demander, c'est l'imperium du petit. Commander, c'est l'imperium de celui qui a l'autorité. Les deux. L'imperium, dans le sens fort, quand je demande, lors de l'exécution. Alors, demander... C'est un acte d'intelligence, que l'impérium c'est un acte d'intelligence, en bonne philosophie et théologie. C'est un acte d'intelligence. Il faut être intelligent pour demander. Quand on est trop bête, dans sa demande, eh bien il n'y a plus d'impérium, il n'y a plus que l'affectivité sentimentale. Et ça agace celui à qui on demande. Il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Demander, c'est un acte d'impérium, donc un acte d'intelligence. Et quand on demande, on est dans la situation de celui qui n'a aucun droit. Quand on commande, on est dans la situation de celui qui a autorité, qui a des droits. J'ai le droit de vous commander. Tandis que quand je vous demande de faire quelque chose, je n'ai aucun droit. Quand j'exerce l'autorité, on sait qu'on a des droits. Vous voyez, dans le cœur de cet officier, C'est tout ça qui est sous-jacent, parce que c'est Jésus qui éduque ce cœur, vous comprenez bien. C'est un contact, cet homme qui tient avec Jésus. C'est merveilleux, dès qu'on s'approche de Jésus, Jésus nous éduque. Et nous éduque, hein, d'une façon merveilleuse, sans aucune confusion. Chaque fois que l'on est en rencontre, en contact avec Jésus, dans une rencontre avec Jésus, il y a tout de suite Jésus qui voit immédiatement notre cœur. C'est ça qui intéresse Jésus. C'est la limpidité de notre cœur. C'est la pureté de notre cœur. La béatitude des cœurs purs, c'est le don d'intelligence. Et le don d'intelligence intervient dans la demande. Puisque c'est un acte d'impérium. Le don d'intelligence intervient. Pour qu'on demande en pauvre ou qu'on demande en riche. Quand vous demandez en riche, vous ne demandez rien. Et Jésus ne vous écoute pas. Parce que Jésus ne veut pas favoriser les confusions. Jésus ne favorise jamais les confusions, les compromis. Jamais. Jésus, au contraire, veut la limpidité du cœur. Et la limpidité du cœur fait que celui qui demande accepte d'être un pauvre. Béatitude des cœurs pauvres, hein? Béatitude des pauvres, le don de crainte, le don d'intelligence, tout ça est impliqué dans ce que c'est de demander. C'est pas facile du tout de commander, vous savez, quand on est habitué à avoir tout reçu depuis sa jeunesse, qu'on n'a pas été le petit pauvre, hein, qu'on a été au contraire celui qui, habituellement, tout était serré, c'est très difficile d'arriver à être une âme de pauvre intelligent qui sait demander. Et on voit bien ici, et je crois que tout ça est sous-jacent à ce qui nous est montré ici. Ayant entendu dire que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en alla vers lui et il le priait de descendre et de guérir son fils. Il y a une chose de trop, c'est de descendre. Il dicte les moyens. Un pauvre ne dicte pas les moyens. Un pauvre, il est lié à la finalité. C'est ça la grandeur de la pauvreté. Un pauvre, ça lui est égal, la manière dont ça s'accomplit, parce qu'il est pauvre. Le petit bourgeois, c'est celui qui s'intéresse surtout aux moyens. Alors là, il est très petit bourgeois. Oui, il s'intéresse beaucoup aux moyens. Oui. Je veux ça de cette manière-là. Mais autrement, non. On voit très bien, il le priait de défendre et de guérir son fils. Vous comprenez, c'est merveilleux pour cet officier royal de descendre à côté de Jésus. Il aurait été à la droite du Christ, descendre avec le pape. Quelque chose, hein. Le but, évidemment, c'est de guérir l'enfant. On aime beaucoup l'enfant, mais on garde quand même sa dignité, hein. Et on garde la petite gloire qu'il y a. Une photographie merveilleuse, on descend avec le Christ pour guérir l'enfant. C'est merveilleux, on demande, oui on demande, c'est évident, mais on demande de telle manière. On tient à cette manière, à cette modalité. Le pauvre, c'est celui qui n'a plus aucune modalité particulière. Il est revêtu de la redingote de son Seigneur. C'est ça le pauvre. Il n'a pas choisi la taille de son habit. Il est revêtu de la redingote de son Seigneur. C'est ça la vie religieuse. On est revêtu de la redingote du Seigneur. C'est pas notre taille. On n'aurait pas choisi ça, nous. C'est bien évident. On n'aurait pas choisi ça. Il est revêtu de la redingote du Seigneur. C'est merveilleux. Et c'est la finalité. Vous voyez, c'est ça la finalité. C'est ça qu'il regarde avant tout. Il le priait de descendre et de guérir son fils. Car il était sur le point de mourir. Là, il y a cette soif. Jésus donc lui dit, si vous ne voyez signe et prodige, vous ne croyez pas. Jésus ne marche pas. Jésus était plein de miséricorde, donc il aurait toujours accepté. Non. Parce que Jésus ne coopère pas à quelqu'un qui ne sait pas demander. à quelqu'un qui n'est pas assez pauvre. Peut-être très pauvre pour demander pourquoi nos demandes ne sont pas toujours toujours réalisées. Parce qu'on n'est pas assez pauvre. On demande encore de cette manière-là. On entend nos petits trucs. On n'est pas assez pauvre. C'est merveilleux, ça. Si vous ne voyez signe et prodige, ça agace un peu Jésus, hein. Avec beaucoup de... Mais il est très doux, hein. Jésus est doux et humble de cœur, c'est sûr, il est doux et humble de cœur. Mais, Jésus n'entre pas dans les compromis. Il ne veut pas entrer dans les compromis, il n'entrera jamais dans les compromis. Jamais. Or, réaliser une demande, c'est coopérer avec celui qui demande. C'est une coopération. Jésus ne peut coopérer qu'avec les pauvres. Les pauvres en esprit. On ne peut pas coopérer autrement. Ça va très loin, ça va très très loin. C'est très très beau pour la théologie de la demande, ça. Saisir ce que c'est que la théologie de la demande, hein, et savoir comment il faut demander. Si vous ne voyez signe et prodige, vous ne croirez pas. Voyez, je ne pourrais pas dire ça si je n'avais pas cette parole de Jésus. C'est toujours Jésus qui éclaire les situations. C'est lui qui actualise, hein. Et donc, ce que dit Jésus là, c'est nettement, c'est, Jésus n'accepte pas. Et il exprime. Si vous ne voyez signe et prodige, vous ne croiriez pas. L'officier royal lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Jésus lui dit, va, ton fils vit. C'est extraordinaire. Oui, si je regarde ça un petit peu extérieurement, je dis, mais c'est exactement la même chose, quoi. Il n'a pas mis entre parenthèses, il n'a pas fait l'époque de descendre, non. Ah, attention, eh bien oui. Tout dépend des intonations. Vous savez, le Saint-Esprit, il est très très intelligent. Alors, il échappe à l'exégèse. Parce que il est la voix. Alors, il échappe à l'exégèse. Il n'y a pas d'exégèse de la voix. Le Saint-Esprit est proche de la liturgie parce qu'il est la voix. Alors, il met l'accent. Bien, c'est de toute façon liturgique. Il y a une grande liturgie, il met l'accent là où il faut. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire comme coopération de Jésus. Jésus refuse. Jésus accepte. Va, ton fils vit. Là, il coopère. Il répond. Il a corrigé, hein. Il a donné une correction. Très curieux. Dieu aime que nous demandons pour que Dieu puisse nous corriger. Il ne faut jamais oublier ça. Le jour où on ne demande plus rien, on ne peut plus nous corriger. N'oubliez jamais ça, même avec les maîtresses de novices et les maîtres de novices. C'est quand on demande quelque chose maladroitement qu'on peut vous corriger. Novice, demandez. Si vous ne demandez jamais rien, on ne peut pas vous corriger. Mais si vous demandez, on peut vous corriger. Il y a matière à correction. Alors on est né de la vie du Saint-Esprit. Donc on demande. On a toujours les becs ouverts. Hein. Et si on a les becs ouverts, on demande beaucoup. Ça, les pauvres, ils demandent. Ils n'hésitent pas à demander. Alors ils demandent maladroitement, ils reçoivent la petite correction. Et ils reçoivent la correction, mais leur désir est plus grand que la correction qu'ils reçoivent. S'ils sont des vrais pauvres. Dieu sonde les reins, les cœurs, pour voir s'ils sont de vrais pauvres. S'ils sont de vrais pauvres, leur désir est plus fort que la correction qu'ils reçoivent. S'ils n'étaient pas de vrais pauvres, ils seraient dans un état de susceptibilité telle que la correction donnée ferait qu'ils se replieraient sur eux-mêmes. Ah, il est comme ça, il comprend rien. Si vous ne voyez signe et prodige, vous ne croirez pas. Pas une correction. Alors il aurait pu se replier sur lui-même, tout simplement, et dire, c'est pas étonnant, je ne suis pas israélite. C'est un prophète uniquement pour Israël. Paul, je suis un païen. Non, il ne s'occupe pas de moi. Il ne fait pas ça. Seigneur, bon, il faudrait l'entendre. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Et c'est là où on doit demander au Saint-Esprit. Hein. Je crois que l'exégèse tout court ne peut pas. J'aime beaucoup ces passages dans l'Écriture où l'exégète est obligé de se taire, vous voyez. Et alors on est obligé de demander à l'Esprit Saint de comprendre l'intonation. Et on est obligé de demander à l'Esprit Saint l'intonation. Et c'est l'Esprit Saint qui peut seul nous donner l'intonation. Et ça, Saint Jean nous fait comprendre. Et après tout, c'est peut-être ce qu'il y a de plus grand dans l'exégèse. Hein. C'est de montrer les silences et les intonations. Pour nous montrer que là, l'Esprit Saint passe. Et que ça ne peut pas s'expliquer autrement. L'officier royal lui dit, vous voyez, il ne perd pas de force, il ne se replie pas sur lui-même, il n'est pas susceptible, ça prouve qu'il est pauvre. L'officier royal lui dit, Seigneur. Alors je crois que tout est là, c'est l'accent sur Seigneur. Il regarde que Jésus peut tout. Descends avant que mon enfant ne meure. Ce qui lui importe, hein, c'est la vie de son enfant. Vous voyez, c'est négatif. Et c'est pour ça que ça prend une telle force. Alors, descends, c'est tout à fait secondaire. C'est tout à fait secondaire. C'est pas ça qui est important. C'est avant que ne meure mon enfant. Je crois que c'est là où on voit comment il a touché le cœur de Jésus. La première demande n'a pas touché le cœur du Christ. Et la seconde demande a touché le cœur du Christ. Vous voyez, les vulnérabilités du cœur de Jésus, la grâce d'aujourd'hui, les vulnérabilités du cœur de Jésus. Qu'est-ce qui touche le cœur de Jésus? Qu'est-ce qui ne touche pas le cœur du Christ? Et même, irrite un tout petit. Il y a des saintes colères. Donc on peut dire, irrite un tout petit peu. Quand Jésus dit, si vous ne voyez signes et prodiges, vous ne croirez pas. C'est Jésus un petit peu irrité. Hein. C'est une sainte colère. Jésus corrige. Or on corrige bien dans les saintes colères. Il y a des corrections qu'on ne peut pas faire autrement. Quand il est en face de certains qui ne comprennent rien. Alors il faut quand même dire les choses nettement autrement, s'ils ne comprennent rien du tout. Ils continueraient à palabrer, hein, et à croire qu'il prie. Ben, pas du tout, il raconte leur histoire. Et il ne prie pas. Il faut qu'il se mette dans une attitude de petitesse et de pauvreté. Qu'est-ce qui touche le cœur de Jésus? Et qu'est-ce qui, au contraire, suscite une correction? On doit se demander, hein, on doit demander au Saint-Esprit de nous éclairer là. Quand Jésus dit, va, ton fils vit, le cœur du Christ a été ému. Le cœur du Christ a été atteint. Il a été atteint par la prière de cet homme, de cet officier royal. Seigneur, descends avant que ne meure mon fils. Le cœur du Christ est très touché par la fidélité, la constance de nos demandes. Il le dit, hein, c'est dit dans l'Évangile. L'ami qui ne cesse de demander. Ça touche le cœur du Christ. Et cet homme demeure fidèle, hein, dans ce qu'il demande, par cause de son amour pour son fils. Mais je crois aussi, c'est que cet homme demande avec beaucoup plus d'humilité et de pauvreté. Alors il y a une coopération qui peut se faire. Va, ton fils, vis. L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite, il se mit en route. Et on voit bien là, vous voyez, s'il voulait à tout prix la descente de Jésus avec lui, il dirait, il faut que tu sois là. Il reviendrait sur le moyen, ça lui est égal. La seule chose qu'il lui apporte, c'est que son fils vit. Donc c'est bien la finalité. Le moyen, ça lui est égal. Et c'est là où il touche le cœur de Jésus. Parce que justement, il est un pauvre qui ne s'arrête pas au moyen. Tant qu'on s'arrête au moyen, si parfait que soient ces moyens, on n'est pas pauvre. Tant qu'on s'arrête au moyen. On n'est pas pauvre. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faut ne pas s'occuper des moyens. Hein. On va dire, l'habit, c'est un moyen, donc ça n'a aucune espèce d'importance. Ah, pas du tout. Mais on doit user de tous les moyens en pauvre. C'est ça la difficulté. Et non pas comme ceux qui possèdent. Il y a une manière d'être ceux qui possèdent sans regarder tel ou tel moyen. Et il y a une manière d'être pauvre en usant de tel ou tel moyen. C'est ça qu'on ne peut jamais juger de l'extérieur. L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite et il se mit en route. Alors vous voyez cette chose très très forte, hein, la prière de demain, elle est premièrement pour cet officier royal. Quand nous prions, l'Esprit Saint nous éduque. Il veut nous éduquer par la prière de demande. Et donc le premier bénéficiaire de la prière de demande, c'est celui qui demande. Et c'est ça que veut l'Esprit Saint. Il veut en premier lieu la transformation de notre cœur. Et ça c'est le grand secret de toute la prière de demande. C'est de transformer notre cœur. Vous voyez, le Père Brault l'avait souligné, si vous avez été attentif, à propos de la prière de demande. Il avait souligné cela, que le premier effet de la prière de demande, c'est que l'Esprit Saint puisse transformer notre cœur. Or, l'Esprit Saint ne peut transformer notre cœur que si nous sommes pauvres. Parce que l'Esprit Saint n'agit qu'auprès des pauvres. Tant que nous avons encore notre jugement propre sur tel ou tel moyen lié à telle ou telle fin, l'Esprit Saint ne peut pas nous éduquer. Et alors, à ce moment-là, la prière de demande ne peut pas se réaliser, puisque la première chose que l'Esprit Saint veut, c'est faire une œuvre commune avec nous. Or, il ne peut faire une œuvre commune avec nous par la prière de demande que s'il transforme notre cœur. Là, c'est la pédagogie divine de l'Esprit Saint. Et c'est très très beau, et c'est très grand, parce que ça nous fait saisir théologiquement ce qu'est la prière de demande. Dans la prière de demande, nous voulons faire œuvre commune avec l'Esprit Saint. Et nous voulons que l'Esprit Saint se serve de nous pour réaliser l'œuvre qu'il veut. Nous ne sommes pas extérieurs. On serait extérieur si on était une machine à prière. Alors on serait extérieur. Mais l'Esprit Saint ne veut pas que nous soyons ça. Il veut qu'au contraire, nous soyons des amis. Et donc nous coopérions. L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite. Voilà le fruit premier de sa prière de demande. C'est de croire à ce que Jésus lui-même nous fait comprendre. Il se mit en route. Comme déjà il descendait, ses esclaves vinrent au-devant de lui. Et c'est très beau de voir ça. Hein. Il n'a pas envoyé ses esclaves. On souligne, il aurait pu. Hein. Non, non, c'est lui qui voulait rencontrer Jésus. Et il était mû par l'Esprit Saint pour rencontrer Jésus, pour lui-même croire en la parole de Jésus. Comme déjà il descendait, ses esclaves vinrent au-devant de lui et ils dirent que son garçon était vivant. Il leur demanda donc l'heure à laquelle celui-ci s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, c'est hier, à la septième heure, que la fièvre l'a quitté. C'est tombé, hein, de façon nette, à la septième heure. Alors évidemment, les pères de l'Église, la septième heure, vous comprenez que c'est très important. Hein, c'est... Toute l'humanité est fiévreuse, hein, par le péché, il ne faut pas l'oublier. Les fièvres qui font qu'on ne peut plus être exactement ce qu'on devrait être. Alors l'action du Christ qui guérit de toute fièvre, c'est hier que la septième heure que la fièvre l'a quitté. C'était ce brave garçon qu'on avait baptisé à notre lit, à l'arche, qui était un handicapé, qui tremblait. tout le temps, c'est sa maladie. Pas baptisé, il avait demandé le baptême. Il s'exprimait très mal, comme handicapé. Et alors tout le monde a remarqué qu'au moment où il a reçu le baptême, il y a un moment, grand silence. Les gosses, c'est ordinairement l'inverse, ils commencent à ce moment-là à se remuer comme des petits crapauds, n'est-ce pas, et à crier à toute force, hein. C'est sûr, surtout quand c'est un peu plus âgé, quand ils sont tout petits, ça va, mais quand ils sont plus âgés, on voit très bien. Un autre, il dit, mais qu'est-ce que le baptême? Alors il a eu cette parole extraordinaire. Le baptême, c'est Dieu qui tue la fièvre. C'est ça, merveilleux comme définition du baptême. Non, c'est Dieu qui tue la fièvre. Il avait lui-même senti un moment de grande paix. Et extérieurement, ça se voyait, il ne tremblait plus. Ça n'a pas duré. Mais il y a eu un passage. C'est Dieu qui tue. Qui tue le tremblement, qui tue les nerfs, qui tue la fièvre. Cette espèce d'état mauvais. C'est très beau parce que c'est hier à la 7e heure que la fièvre l'a quitté. La parole de Jésus qui fait que cet enfant reprend la vie. Le Père reconnaît donc que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Et il crut, lui et sa maison tout entière. Alors vous voyez, il y a deux fois où il crut, on comprend très bien, il y a une croissance dans la foi. Et la seconde fois va plus loin que la première. Tel fut le second signe que fit encore Jésus quand il vint de Judée en Galilée. C'est très simple, hein, cette seconde rencontre avec Jésus. Alors vous allez me dire, on ne voit pas très bien comment c'est Jésus époux. On le comprendra après. Je n'ai pas envie de le faire comprendre tout de suite maintenant. J'ai envie de le voir après. Parce qu'il faut voir les trois en même temps. Et je crois qu'il faut voir les trois en même temps pour bien comprendre ce qu'il y a comme rythme particulier là, cette rencontre de Jésus avec cet officier royal. Et cette rencontre qui implique une demande et qui implique une efficacité de cette prière de demande, et cette efficacité est visible, cet enfant dont le Père intercède. C'est très rare que nous voyons dans l'Écriture des médiations paternelles. Très rare. Or ici, c'est une médiation paternelle. C'est le Père qui devient médiateur. C'est lui qui demande, c'est lui qui a porté dans son cœur la fièvre de son fils, l'agonie de son fils, c'est lui qui porte cela dans son cœur, autrement il serait resté officier royal. Il fallait ce poids de souffrance de son fils pour qu'il redevienne père. Il porte la souffrance de son fils et vient la présenter à Jésus. C'est bien ça la médiation. Et c'est la médiation d'un père. C'est très rare que nous voyons les médiations d'un père. Ordinairement, le père exerce l'autorité. Celui qui exerce la médiation n'exerce pas l'autorité. Directement. Il peut l'exercer indirectement, non pas directement. Il est celui qui, au contraire, hein, porte la misère d'un autre pour la présenter à quelqu'un d'autre. Et ici, il la présente à Jésus. Et c'est Jésus qui exerce l'autorité. Et c'est Jésus qui exerce l'autorité et qui se sert de ce Père et de la prière de ce Père, de la demande de ce Père pour guérir l'enfant. Il s'en sert directement. Donc on est là en présence de quelque chose de très spécial. Et c'est d'autant plus important que c'est dit avec une telle simplicité que nous ne voyons pas, qu'on ne s'arrête pas pour se dire oui, oui, c'est une guérison comme une autre, une guérison comme une autre. Jésus ne fait jamais une guérison comme une autre. Donc il y a quelque chose au point de vue théologique que nous devons essayer de comprendre à travers cette rencontre de Jésus et de cet officier royal, et de comprendre que dans cette rencontre, il y a quelque chose de tout à fait particulier, la guérison de l'enfant. Situation, vous voyez, triangulaire. Hein? Jésus, l'enfant et la médiation du Père. On essaiera de comprendre ce que ça veut dire, parce que je crois que c'est très important. Ça doit nous donner toute une lumière sur le mystère de la rédemption. La médiation du Père. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est vraiment une médiation paternelle. Mais comme c'est différent de la rencontre avec la Samaritaine n'a pas besoin de médiatrice. L'enfant en a besoin, ce qu'il agonise. Il ne peut rien dire. Il ne peut pas courir au-devant de Jésus, qui est dans le fond de son grabat. Tandis que la Samaritaine n'a pas besoin. Au contraire, il faut que tous les apôtres s'en vont. Contact direct avec Jésus. Parce qu'il est évident que la Samaritaine n'aurait pas pu avoir quelqu'un qui jouait le rôle de médiateur. Il fallait donc qu'elle soit directement liée à Jésus. Et l'enfant avait besoin d'un médiateur. Mais la loi de la médiation, hein, c'est tellement important dans l'économie divine. Saint Thomas souligne que nous ne comprenons rien du tout à l'économie divine de la nouvelle alliance si nous ne regardons pas le point de vue de la médiation. Et si nous n'essayons pas de regarder les diverses médiations, les caractères différents de ces médiations qui interviennent. Alors c'est à travers les gestes du Christ et à travers dont Jésus agit sous l'action de l'Esprit Saint que nous devons découvrir cette médiation divine.